C'est vrai, on a entendu le parcours de ces trois gaillards. Parcours de vie. Plutôt sympa, quand même. Mais comment en sont-ils arrivés là, ces trois gugus-là ? Comment sont-ils arrivés à se vêtir d'une jolie robe blanche, un dimanche matin ? Comment sont-ils arrivés à se laisser plonger dans l'eau pendant quelques secondes, et cela sans broncher ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à chacune et à chacun d'entre nous ? Et il me semble que ce qu'ils veulent nous dire, Antoine, Mathieu et Yannick, c'est qu'ils ont fait une rencontre un peu spéciale dans leur vie. Une rencontre telle qui les pousse à aller au-delà, même de ce qui semble assez logique. C'est vrai, après tout, il n'est pas très logique de porter une robe blanche un dimanche matin. On dort plutôt, on regarde téléfoot. Ils sortent même de la logique assez rationnelle en se mettant dans l'eau quelques instants. Mais ils expriment par là quelque chose de profond. Une rencontre profonde qui a transformé leur intérieur. Au fond, derrière cette belle robe blanche, derrière ce court plongeon en apnée, se cache une réalité profonde qu'ils ont vécue, une rencontre. Et Jésus a un jour raconté une histoire à ceux qui l'entouraient. Il était en train de partager un repas, vous savez, avec des gens de mauvaise vie, des gens qu'on laisse passer, dont on détourne le regard. Mais Jésus, lui, mange avec eux. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes droits, justes et pieux, qui considèrent qu'un homme comme Jésus, droit, juste et pieux, devrait manger avec des hommes et des femmes droits, justes et pieux. Des gens de bonne famille, n'est-ce pas ? De bonne vie, irréprochable. Mais Jésus va leur raconter une petite histoire pour leur expliquer qu'ils font fausse route, car Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde à notre cœur. Alors, il va leur raconter cette petite histoire que je vous invite à suivre avec moi. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez, vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. Un homme avait deux fils. Aujourd'hui, c'est trois fils qu'on a. De trois pères différents. Mais ils ont connu quand même un parcours un peu similaire. Un moment où ils se sont distancés un peu de la foi de leur famille pour qu'elle devienne une foi personnelle. Alors, je ne sais pas, Pascal, Jean-Michel et Andreas, si ces trois garçons ont déjà demandé leur part d'héritage. Je ne sais pas. Désolé les mamans, elles sont absentes du récit. Mais pourtant, elles sont importantes pour ces trois gugus-là. Hein. Parce qu'en fait, dans cette histoire, le plus jeune des fils veut prendre la poudre d'escampette. Il veut vivre sa vie comme il l'entend. Il veut vivre comme cette chanson préférée de ces trois garçons-là. Parce que derrière ses bras musclés se cache un cœur tendre. Et vous savez c'est quoi cette chanson ? Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est décidé, je m'en vais. Désolé les gars, il le fallait. Alors finalement, ce Gugus, là, au lieu de rester tranquillement chez papa et se la couler douce, il demande sa part d'héritage, l'héritage qu'il devrait avoir à la mort de son père. C'est une demande assez étrange, vous me direz, mais la réponse du père est tout aussi étrange, parce qu'il donne. Il donne la liberté. Parce qu'au fond, l'amour ne se vit que dans la liberté. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de laisser ceux qu'on aime vivre leur liberté, vivre comme ils l'entendent, faire leurs propres expériences. Mais en réalité, c'est ce que Dieu fait avec chaque être humain. Chaque personne est libre de vivre. Oh, Dieu n'accepte pas, ne choisit pas de nous enfermer pour que nous soyons dociles à son service. Non, Dieu est amour avant tout. Il aime chacune et chacun d'entre nous, au point même de nous laisser libres de l'aimer ou pas. Ce Dieu vous aime, Yannick, Antoine et Mathieu. Il vous a laissé cheminer jusqu'au moment où vous êtes tourné vers lui et qu'il a couru jusqu'à vous. Alors le père répond donc à la demande de son fils et lui donne tous les biens, enfin au moins une partie. Et puis, bon, c'est beau des bestioles, des biens, des meubles, etc. Mais lui, il veut du cash, du liquide. Donc il va convertir tout ça. Et ça y est, la grande vie commence. Il s'achète des vêtements hors de prix. À lui, les pistes de danse, les jolies filles à l'amour monnayable. Il est sapé comme jamais. Vous connaissez cette chanson ? Il dépense sans compter. Avec pour seule devise, autre chant que vous connaissez peut-être, « Watch me, regardez-moi comme je suis beau. Je resplendis, je danse bien. » Autre devise qu'il a, « Je suis libre. » I'm free, like a river. Vous ne connaissez pas cette chanson ? Qui a été une chanson d'une banque populaire de je ne sais pas quoi là. I'm free, like a river. Je suis libre comme une rivière. Et vous voyez ce garçon-là, sur la piste de danse, en train de danser, je suis libre comme une rivière. Mais le problème d'une rivière, quand elle n'est pas alimentée, c'est qu'elle s'assèche. Et c'est ce qui va se passer pour ce Gugus. Il va regarder ses poches, plus un cent, plus rien. Alors, au milieu de la piste de danse, il se tourne vers ses copains, ses amis, personne. Où sont donc ses amis ? Ceux qui se réjouissaient avec lui, ceux qui buvaient, chantaient, dansaient. Plus personne n'est là. Il est tout seul. Il n'a plus rien. Il est pauvre. Alors, il a encore un petit ressort d'orgueil, un petit ressort de fierté. Il va se dire, mais je vais trouver un job, un petit travail pour survenir à mes besoins. Et il en trouve un, celui de fermier. Mais pas n'importe quel fermier. Un fermier breton. Non pas parce qu'il a un bonnet rouge, ou qu'il soit têtu, encore que, mais parce qu'il va s'occuper de cochons. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle. Moi, je suis d'origine bretonne. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de cochons en Bretagne. Bon. Mais à cette époque-là, le cochon, ce n'était pas un animal tant convoité que ça. Hein. Dans cette culture juive, le cochon, c'était l'animal le plus bas, qu'on ne devait même pas toucher, tant il était sale, impur. Et ce pauvre Gugus va se retrouver à devoir servir à manger à ces animaux impurs, à ces animaux qui étaient considérés comme détestables par sa famille, par la foi de sa famille. Il descend. Il chute. Et c'est au cœur de cette situation désespérée que va jaillir l'espérance, la joie, la paix. Mais pour le moment, il ne le sait pas. Alors qu'il patauge dans la boue, qu'il voit cette succulente assiette mangée par les cochons, bruyamment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les cochons manger, ce n'est pas très délicat. Ça ne donne pas envie de manger ce qu'il mange. Mais lui, il est à la peine. Et il réfléchit. Il se souvient. Il se souvient. On a parlé des chanter des souvenirs d'antan. Ces moments où il a vu son père s'occuper de ses employés de façon juste, bienveillante, correcte. Et s'il rentrait à la maison? Et s'il rentrait à la maison? Alors son père ne serait plus son père, son patron, mais au moins, il aurait la chance de pouvoir manger. Alors il cogite. Je sais ce que je vais faire maintenant. Je rentre à la maison. Et il commence à mémoriser ses paroles. Père, j'ai péché, j'ai fait des mauvaises choses. Je me suis laissé conduire par mon égoïsme, par mon propre désir. Père, je ne peux plus être appelé ton fils. Je le sais. J'ai tout cassé, tout brisé. J'ai voulu prendre mon envol. Par mes propres ailes, je voulais gérer ma vie. Et je sais combien ça t'a affecté. Aussi, je ne réclame rien. Je ne revendique rien. Simplement d'être un petit ouvrier, caché. Alors il marche vers la maison de son père, affaibli, le regard vague, en train de répéter cette phrase qu'il va dire à son père. Il marche et il mesure à chaque pas son échec, en se souvenant avec tristesse de cette belle vie qu'il avait avec son père. Et en mesurant qu'au fond, chaque instant qu'il a distancé de son père était autant de blessures qu'il a infligées à son cœur. Il marche, alors avec le peu de force qui lui reste. Mais qui donc court vers lui? Qui est l'homme qui lui tend les bras, les yeux rougis de larmes? Serait-ce son père? Mais est-ce possible? Oui, ce fils délaissé, ce fils qui est parti, ce fils qui regrette profondément ce qu'il a fait, ce fils qui s'apprêtait à être un ouvrier est accueilli à bras grands ouverts par son père. La joie remplace la tristesse, le pardon remplace, apaise les blessures du passé. Alors le père ne laisse même pas le temps au fils de terminer sa phrase, qu'il dit à ses serviteurs, « Mon fils est revenu. Donnez-lui les plus beaux vêtements, la plus belle bague, avec le sceau de la famille. Mon fils est revenu à la vie. » Le père a retrouvé son fils. Votre Père céleste a retrouvé ses trois fils. Ainsi en est-il. Ainsi en est-il. Pour ceux qui s'approchent humblement de Dieu, ils peuvent savoir que simplement, Dieu est là. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, peu importe les égarements. Par cette petite histoire, Jésus est en train d'illustrer la joie qui est dans le ciel, la joie de Dieu, lorsque des gugus comme ça se tournent vers lui pour leur dire « Papa, je suis de retour ». Oui, Antoine, Mathieu, Yannick, vous êtes rentrés à la maison de votre Père céleste. Vous avez reçu son pardon, il vous a embrassé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à la maison? Jouer à la console? Écouter de la musique? Prendre du bon temps avec les copains? Vous avez eu le droit, hein ? Rien n'est interdit. Mais quand même, juste une petite parole. Il y avait un autre gars, un tortionnaire religieux, repenti, Paul, qui vous laisse cette petite parole. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père. Antoine, Mathieu, Yannick, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. En quelque sorte, une fois que vous êtes rentré à la maison, vous changez de casquette. De fils prodigue, vous êtes appelé à être père. Alors, pas papa, hein ? Entendez-nous bien, hein ? Dans le temps. Mais à être comme votre Père céleste, porteur d'un message de grâce, d'un message de pardon, d'un message de recommencement toujours possible avec Dieu. Soyez toujours à l'affût pour témoigner de l'amour de Dieu autour de vous. Soyez ces témoins du pardon accessible. Soyez ces relais de cette foi chrétienne pour dire au monde qu'il ne s'agit pas d'une foi, d'une religion, mais d'une relation, de l'amour d'un père qui attend ses enfants au pied de la maison. Soyez plein de grâce, chers amis. Le monde en a besoin. Soyez plein de grâce par vos paroles, vos actions et vos pensées. N'ayez pas peur des personnes que l'on dit de mauvaise vie. N'ayez pas peur d'eux. Mais soyez toujours disponibles. Soyez toujours disponibles, accessibles, témoins, comme l'a été Jésus parmi les pécheurs. Que vous puissiez être des personnes qui actualisent l'amour de Dieu. Le monde, cher Yannick, Antoine, Mathieu, le monde a besoin d'hommes et de femmes assez courageux, assez forts pour aimer et pour porter le message de la paix. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Amen.